Alors qu'à l'annonce de l'abandon du projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ce petit monde souterrain de libertaires autonomistes s'était pris à rêver d'utopie verdoyante et autogestionnaire, le gouvernement revanchard s'est subitement pris à torpiller ses écolos forcenés. La ZAD, aussi inoffensive puisse-t-elle être, restait comme une aiguille dans le pied et appelait à désinfecter la République de ce foyer de rébellion contre le pouvoir capitaliste. D'où, depuis le lundi 9 avril, cette manœuvre militaire d'une brutalité sans précédent qui restera dans les annales de la répression et qui vise à débarrasser la zone de ses éléments les plus réfractaires à l'ordre républicain. Malgré l'annonce 4 jours plus tard de la suspension des expulsions et destruction des habitations, le gouvernement, dont la duplicité fait école, semble si peu à l'aise avec sa propre violence qu'il a interdit les journalistes sur ce qu'il conviendrait d'appeler tristement une zone à détruire. Au milieu du chaos qu'est la résistance pour défendre ce territoire, nous avons pu, tant bien que mal, interviewer par téléphone Camille qui dresse le bilan de ses premiers jours de destruction. Tout d'abord, est-ce que tu peux faire un état des lieux de la situation à la ZAD aujourd'hui ?
Alors c'est un peu difficile de faire un état des lieux, en tout cas précis, puisque c'est un lieu vraiment très très grand, et que les informations sont difficiles à... Comme il est difficile de circuler sur la ZAD, c'est difficile d'avoir des informations, en tout cas des informations de confiance, il y a beaucoup de rumeurs. À l'heure actuelle, il semblerait que les expulsions soit arrêté. En tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux logements, de nouveaux lieux de vie qui ont été détruits. Mais en même temps, alors que je dis ça, j'entends les grenades de loin, donc il y a des affrontements probablement à quelques centaines de mètres d'ici.
Aujourd'hui même, le président Macron aurait annoncé une suspension ou un arrêt des expulsions. Vous le prenez comment là-bas à la ZAD ?
Pour nous, c'est très compliqué parce qu'à la fois, on entend bien, ça nous semble logique qu'il y ait une suspension des expulsions, puisque là, la situation n'est pas tenable. Je veux dire, on ne peut pas continuer à augmenter la tension comme ça a été au cours des 3 derniers jours.
Ouais.
Et à la fois, on est assez sceptique du fait que la communication officielle, très notamment de la préfecture, a été exactement à l'inverse de ce que nous, on a pu constater sur le terrain. C'est-à-dire que lundi matin, quand la préfète a déclaré qu'elle n'avait pas expulsé des projets agricoles, un quart d'heure après, la gendarmerie mobile débarquait dans la ferme des Sans-Noms et détruisait la ferme des Sans-Noms. C'est un des très nombreux exemples de l'espèce de double discours, hein, en tout cas de l'hypocrisie de la communication de la préfecture depuis le début de la semaine. Et du même coup, on a du mal à faire confiance dans la parole de Macron aujourd'hui.
Alors si on s'imagine un peu une carte de la ZAD, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui n'a pas été atteint par cette tentative ?
Il reste les trois quarts des maisons.
Il reste seulement le
quart sud-est qui a été touché. Mais en fait, les trois quarts des projets n'ont pas été touchés. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont coincés là-bas sur quelques barricades. Pas vraiment parce qu'il y a un rapport de force... Pas parce qu'ils ne peuvent pas passer, ils ont des tanks, ils ont des drones, ils ont des hélicoptères, évidemment ils peuvent passer. Ce truc, c'est que ça leur prend énormément de temps, et notamment ça leur prend énormément de temps de réussir à déblayer tous les matériaux suite à la destruction de nos lieux de vie.
Ils sont gênés par leurs propres opérations.
Ouais, mais il faut s'imaginer que pour eux, c'est une grosse machinerie quand même, coordonnée plus de 2500 policiers, enfin gendarmes en l'occurrence, plus les différents corps de métier, les déménageurs, les huissiers... l'espèce de théâtre qu'ils essaient de faire pour donner l'impression qu'ils respectent leur propre légalité. Et bien, toute cette machinerie, elle est effectivement compliquée à mettre en place.
Alors justement, parlons légalité ou illégalité, enfin, concernant les conditions d'évacuation, parce que c'est l'un des thèmes qui est souvent mis en avant, et d'ailleurs il me semble que Nicole Klein est convoquée au tribunal de grande instance pour expulsion illégale.
Donc, pour voie de fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement une expulsion légale, il y a eu des maisons détruites illégalement. Carrément, une voie de fait, c'est des violences en réunion qui ont été commises de la part de la police. Avec préméditation. En fait, un des nœuds du problème, c'est que quand une maison est expulsable, il faut communiquer à travers un huissier l'expulsabilité de ce lieu. Il n'y a aucune communication qui a été faite, ni par voie de presse, ni par huissier, rien du tout. Encore aujourd'hui, on ne sait pas quels lieux sont expulsables et quels lieux ne le sont pas. Donc, par exemple, lundi matin, quand ils se sont présentés au Sans-Noms, l'huissier était présent, Mais quand on lui a demandé, est-ce qu'on peut voir l'ordre judiciaire qui vous autorise à exécuter cette expulsion, Lucien nous a répondu qu'il n'avait même pas cet ordre-là, que c'était la préfecture qui l'avait, qui lui avait pas donné. Ça, c'est complètement illégal.
L'autre volet de l'intervention policière, c'est la brutalité. On dénombre énormément de blessés du côté des zadistes.
Oui, bah, hier, 80 personnes seulement hier. Et notamment dû au fait de l'usage d'armes de guerre, comme les grenades assourdissantes, qui pour chaque grenade, contiennent 30 grammes de TNT. Ils peuvent faire des dommages très importants si elles explosent à proximité d'une personne.
Et donc,
enfin, c'est mortel, c'est des armes mortelles. Hein.
Oui, d'accord. Donc on peut se poser, on peut se demander comment vont en fait les habitants. Comment est le moral des troupes en lutte contre l'évacuation de la ZAD?
Et ben, on passe un peu par tous les états. Il y a des moments où on est très affecté, durement, évidemment, de voir des bulldozers écraser les lieux qu'on a passé des années à construire ensemble. On a pleuré, on a été très très en colère. On a aussi senti beaucoup de force collective. Et beaucoup de solidarité avec les centaines de rassemblements de soutien qu'il y a pu y avoir de par le monde. Tout ça, ça nous a plutôt aussi renforcé dans notre conviction qu'on allait tenir cet endroit coûte que coûte.
Quels sont les moyens de résistance des personnes là-bas?
Comment ça... comme depuis le début de comme au cours de l'opération César 1 en 2012, il y a une diversité très large de manières de résister. Il y a aussi bien des paysans qui mettent leurs tracteurs, des gens qui lancent de la bouche aux policiers, des barricades qui sont érigées, et aussi bien des affrontements dans certaines circonstances quand les policiers essayent d'attaquer des lieux.
Est-ce que c'est pour un peu occulter cette violence qu'on a interdit les journalistes là-bas?
Très certainement. Ils sont certainement très mal à l'aise eux-mêmes avec leur communication, et c'est sûrement pour ça aussi qu'ils ont empêché l'accès à des journalistes, même si de nombreux journalistes sont présents parmi nous. Hein. Hier, parmi les 80 blessés, 3 étaient des journalistes. Trois journalistes ont reçu des éclats de grenades en début d'après-midi.
Si on peut se permettre quelques considérations un peu plus générales. Le slogan contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes était « Contre l'aéroport et son monde ». Alors maintenant, il n'y a plus d'aéroport. Est-ce qu'on peut considérer que l'attaque aujourd'hui à la ZAD sonne comme une revanche de ce monde industriel, capitaliste?
Oui, très certainement, il y a une volonté à travers toute cette espèce de diatribe de retour vers l'ordre républicain. Il y a effectivement, en tout cas de la part de la gendarmerie, une volonté de se venger de l'impuissance dans laquelle on avait réussi à les mettre à l'époque.
Il y a une autre question que je me pose. Quelle était la situation quelle était la situation avant l'évacuation et depuis l'abandon du projet? Quelles avaient été un peu les velléités à ce moment-là?
En fait, ici, ça fait déjà depuis 2013 qu'on sait que l'aéroport ne va pas se faire, que nous, on a la conviction profonde que l'aéroport ne va pas se faire et que, du même coup, on prépare l'avenir sans aéroport sur la ZAD. Donc il y a tout un tas, ça fait des années qu'il y a un processus collectif de lancer avec des discussions internes, des rencontres avec d'autres expériences, comme celle du Larzac, par exemple, pour essayer d'apprendre un peu de ce qui avait pu avoir lieu ailleurs, et par là même l'élaboration d'un projet collectif de gestion commune des terres par le mouvement qui les avait préservées.
Comment on peut soutenir la ZAD?
Alors, soutenir la ZAD, c'est très facile, hein. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour le faire. Il y a plus d'une centaine de comités locaux de soutien à la ZAD qui existent en France. Il y en a très certainement dans votre ville ou dans votre région. Il y a la liste complète sur le site zad.nadir.org. Et il y a aussi très certainement près de chez vous des lieux de pouvoir ou des lieux, des mairies tenues par des maires de la République En Marche ou des bureaux de députés. Tout un tas de lieux à occuper, à aller... signalés comme étant les responsables de cette situation.
Touga a vécu quelques mois à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Avec le recul des années et la perspective de sa destruction actuelle, elle nous livre son témoignage sur ce lieu de vie, de production maraîchère, d'artisanat, d'expérimentation politique, de renouveau relationnel, etc. Des propos recueillis par Lucien Petit.
Tu as vécu à la ZAD, à quelle période et durant combien de temps? Bonjour, donc j'ai vécu à la ZAD pendant 5 mois à partir de décembre 2012. C'était au moment, juste après les expulsions et les destructions, de novembre 2012, qui avait mobilisé à l'époque beaucoup de gens. Et c'était aussi une période où pendant plusieurs mois il y avait une occupation militaire, c'est-à-dire qu'il y avait des gendarmes qui occupaient un carrefour 24 heures sur 24 jusqu'au printemps 2013.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton activité personnelle à la ZAD, les projets auxquels tu as participé ?
Alors, déjà, j'ai vécu sur plusieurs lieux, parce que quand on parle d'une activité à la ZAD ou d'une participation, c'est beaucoup lié à où est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on fait de son quotidien. Donc, j'ai commencé déjà par découvrir la zone. Ça m'a pris pas mal de temps, découvrir les gens, découvrir un fonctionnement. Donc c'était, je le répète, en décembre 2012. À l'époque, il y avait des lieux qui n'existent plus maintenant. J'ai vécu dans des tentes, des yourtes hors contrôle, dans des maisons squattées, à la ferme de Bellevue, donc qui est une ferme qui avait été occupée par Copain 44, donc des agricultrices et agriculteurs de la Confédération paysanne, et à la cabane Puis Plus. Donc à Bellevue, donc la ferme, j'ai notamment contribué aux soins des animaux. Il y avait des vaches, des moutons d'ouessant, une truie, des poules. Et par la suite, j'ai également participé à la construction de la cabane féministe de la zone.
Au-delà de ton activité, c'est quoi la vie à la ZAD d'une manière générale ? Qu'est-ce qui s'y passe à la ZAD au quotidien ?
Alors pour être honnête, je dois d'abord restituer le contexte et dire que donc j'ai quitté la ZAD il y a 5 ans. Entre-temps, c'est vrai que j'y suis retournée, mais assez rarement. Et il s'est passé beaucoup de choses que je ne connais pas de ce fait, parce que les choses évoluent très rapidement à la ZAD. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des nouveaux lieux et des nouveaux projets qui ont vu le jour. De ce que j'ai vécu à l'époque et de ce que je sais qui reste encore, c'est que la ZAD, c'est vraiment la volonté de faire vivre de manière collective, autogérée et autosuffisante, plein de lieux qui sont disséminés et avec une activité qui va de la culture, de l'élevage, de l'artisanat, de la mécanique, boulangerie, etc. etc. Il n'y a pas que ça, évidemment. C'est vraiment l'idée d'une vie autosuffisante avec des collectifs en fait, qui s'organisent ensemble pour construire des projets et des lieux de vie. Le fonctionnement de la ZAD, tel qu'il était à l'époque, et je sais qu'il a fonctionné et qu'il fonctionne sans doute encore maintenant comme ça, c'est qu'il y a une réunion des habitantes et habitants de la zone toutes les semaines pour justement discuter de l'organisation générale et faire le lien en fait entre tous ces lieux disséminés dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment une volonté de sortir d'un système existant plus général, donc sur la question par exemple de la monnaie. À la ZAD, il y a une volonté vraiment de vivre de l'entraide et du troc. Et également, moi, à l'époque où j'y étais, donc, comme je disais tout à l'heure, c'était une zone qui était occupée 24 heures sur 24 par les gendarmes. Et donc, il y a évidemment aussi toute une partie de l'organisation de la défense de la zone, donc, qui peut être par la construction de barricades et en cas d'intrusion ou de menace militaire. Une défense sur plusieurs aspects des lieux, des routes, etc.
On va maintenant peut-être s'intéresser à la situation actuelle. Hein. Toute cette semaine, le gouvernement expulse brutalement les zadistes. Hein. Certains journaux ont même parlé de zone à détruire, hein. ZAD, zone à détruire. La liste des lieux de vie expulsés par les gendarmes et les CRS s'est allongé au fil des heures. Les planchettes, le lama fâché, Youpi Youpi, Jesse James, Far West, la chèvrerie, les sans-noms, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler de ces lieux ?
Alors, quand j'y vais à la ZAD début 2013, ces lieux existaient déjà, en fait, ou étaient en train de se créer. Donc, pour moi, c'est vraiment des noms qui résonnent et qui ont un sens. C'est vrai que j'imaginais pas qu'ils existaient encore, ou qu'ils existeraient. La plupart de ces lieux sont concrètement en fait des habitations qui ont été construites sur place, généralement en planches en bois, donc c'est ce qu'on appelle plus simplement des cabanes. Donc les noms de lieux que tu viens de dire, c'est surtout en fait des lieux, des cabanes, des lieux de vie collectifs. Là, je peux prendre par exemple l'exemple des sans-noms, dont on a plus entendu parler dans l'actualité récemment, parce que c'est malheureusement un lieu qui s'est fait détruire lundi dernier. Donc à l'époque où j'étais, effectivement, j'ai connu certaines personnes de ce collectif, et je suis allée sur le lieu des sans-noms à son début, quoi. J'ai vraiment vu l'émergence d'un projet hyper intéressant, de maraîchage, d'élevage. À l'époque, ils étaient en train de monter l'éolienne qui leur permettait d'être en autosuffisance énergétique. Donc c'était vraiment un projet très chouette. Moi, l'image que j'en ai, c'est que c'était plein de vitalité, de motivation, de vraiment cette volonté de construire une vie collective d'habitation et d'activité. Alors c'est vrai que depuis 5 ans que je n'étais plus sur place, je n'avais plus beaucoup de nouvelles de ce qu'il s'y passait. J'en prenais pas, et puis comme je regarde pas les médias de manière générale, j'avais quelques échos évidemment par mes contacts qui vivaient sur place, mais de manière très, très clairsemée. Donc cette semaine, évidemment, j'ai entendu parler de, malheureusement, de ces expulsions et de ces destructions. J'ai pas suivi de manière assidue l'actualité parce que les médias, on va dire mainstream, m'intéressent pas. Mais quand même, quand j'ai entendu parler de destruction de lieux qui en fait résonnaient pour moi, je suis allée regarder des vidéos, notamment qui ont été tournées par des personnes qui vivent sur les lieux qui ont été détruits. Et donc là, par exemple, j'ai vu une vidéo tournée par une personne habitante des sans-noms. Et les sentiments qui dominent, évidemment, sont la tristesse, la rage et l'écœurement. C'est pas seulement parce que ça concerne la ZAD, qui est un lieu sur lequel j'ai vécu, mais c'est aussi et surtout, je pense qu'évidemment il y a de l'empathie, j'ai reconnu des personnes que j'avais connues, mais je pense que c'est surtout plus général et plus symbolique. Pour moi, à travers ces vidéos et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vraiment découvert à quel point ils sont capables de détruire en fait des années de projets en commun et de construction. De maisons, ils ont détruit vraiment du temps, de travail, de vie, de partage en détruisant ces lieux-là, et ils détruisent pas seulement des planches en bois en fait, ils détruisent énormément de choses, et j'ai trouvé ça d'une extrême violence en fait, ces images de pelleteuses qui détruisent des maisons avec tout à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui vivent là depuis des années, c'est leur quotidien de travail, de vie, de projet politique. En fait, c'est vraiment un lieu qui concentre toutes ces composantes-là. Et c'est... Ouais, c'est... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. C'est tellement révoltant que... Ouais, on s'y attendait et en même temps, on s'y attendait pas. Enfin, c'est... Je sais pas comment les Camilles de là-bas vont réagir. Mais ouais, c'est un coup dur, quoi.
J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que représente la ZAD. Alors, on peut parler même d'expérimentation politique avec un objectif de construire et de vivre en autonomie, en auto-organisation, en auto-légalité, en auto-souveraineté, sans recours au système marchand, sans recours aux institutions légales et politiques. Alors, selon toi, est-ce que la ZAD, telle que tu y as vécu, ouvre une brèche dans le système capitaliste ?
Alors, à mon sens, de ma petite expérience personnelle, je dirais que malgré effectivement des défauts de dysfonctionnement, parce que rien n'est parfait, aucune expérimentation ne marche comme on voudrait toujours parfaitement. Malgré tout ça, je dirais que la ZAD, c'est quand même un lieu où en fait des gens proposent une manière de vivre ensemble, de relationner, de travailler, d'avoir une activité en fait qui va à l'encontre de la logique individualiste, propriétaire et monétaire du capitalisme. Alors ça peut paraître une sorte de phrase un peu grandiloquente, mais c'est pas que des mots, c'est-à-dire que c'est vraiment une zone où je pense que, alors il y a de la théorie, de la pratique, je sais pas qu'est-ce qui va avec l'autre, qu'est-ce qui va avant l'autre, mais je crois que c'est surtout des gens qui font et qui se questionnent aussi sur leur pratique, et ça c'est intéressant. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est des projets incroyables qui ont vu le jour, en marge du système tel qu'on le connaît, donc sans patron, sans droit de propriété, sans banque, sans salaire, sans police, sans tribunal, sans agence immobilière. Et c'est une expérience qui est quand même sur une échelle relativement assez grande. C'est pas juste un lieu avec une dizaine de personnes, c'est plusieurs milliers d'hectares. Et c'est un lieu qui existe et qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc en ça, c'est assez incroyable. Voilà, donc chaque lieu a son autonomie. Et il y a vraiment l'envie de discuter du fonctionnement global de la zone, collectivement. Donc à travers les réunions hebdomadaires de Zadiz, dont je parlais tout à l'heure. Pour quand même avoir un lien entre toutes ces structures un peu autonomes. Donc pour parler des projets, des différentes situations, pour solutionner des conflits s'il y en a, et pour organiser des actions de lutte. Alors évidemment, tout ne glisse pas comme sur des roulettes, parce que parmi cet ensemble de personnes, évidemment, tout le monde n'a pas la même vision politique et la même manière de voir l'organisation, en fait. Après, moi, personnellement, effectivement, j'ai vu de l'entraide entre des paysans, paysannes qui venaient en tracteur pour aider à transporter du matériel de construction pour des cabanes, de gens qui n'ont rien à voir avec le milieu agricole, quoi. Donc ça, c'est des choses concrètes que j'ai vues. Et effectivement, à l'époque, où donc c'était avant l'annonce de l'arrêt du projet, il y avait cet objectif commun de lutte contre un grand projet inutile, et même si les manières de lutter étaient différentes, il y avait quand même un terrain d'entente qui était possible sur comment s'installer et comment essayer de communiquer ensemble, quoi. Moi-même, en fait, j'ai eu la chance de le vivre quand je participais à la construction de la cabane Puis Plus. J'ai aussi pu passer un moment avec un paysan et une paysanne sur leur exploitation. Donc c'était des personnes qui étaient là avant, en fait, l'annonce du projet, et qui sont restées sur place. Et donc j'ai passé quelques journées avec elle et lui sur leur exploitation. J'ai participé à la traite de leurs vaches, à l'ensilage, etc. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai découvert aussi que le désir de transmission et d'apprentissage, il est très important sur la ZAD. Donc ouais, je dirais que la ZAD, c'est un lieu de vivre autrement, de formation par la pratique. C'est un territoire d'expérimentation de pratiques dites alternatives. Et c'est de par ces pratiques et aussi par les échanges que c'est un lieu de formation politique et intellectuelle et de savoir-faire. Pour moi, la destruction de ces lieux collectifs, c'est vraiment... elle est assassine, quoi. Évidemment, enfin... On se doute que la vie sur le long terme de ce lieu, il est inconcevable, en fait, pour le gouvernement français. Parce qu'en fait, elle va à l'encontre de toutes les valeurs libérales, bourgeoises, coloniales et patriarcales de la République. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on entend le gouvernement, donc via Emmanuel Macron, qui parle des valeurs républicaines. Et c'est en ce nom-là qu'il justifie, en fait... l'intervention militaire, en fait, de destruction sur la zone. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, la ZAD va à l'encontre de tout ce qui représente ces valeurs-là.
Eh bien, merci Touga pour cette chouette contribution. Je pense que pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est un témoignage précieux sur ce qu'a représenté la ZAD et la perspective qu'une telle expérimentation peut indiquer.
Ce sujet a été réalisé par Luc Chaden avec la participation de Lucien Petit pour Micro Rebelle et Radio PFM.